indice, c'est que Michel Vinaver, passé à l'écriture dramatique, lui qui normalement était destiné à devenir romancier, avec L'Objecteur et l'Atome, les deux romans encouragés par Albert Camus, en quelque sorte, trahit l'écriture romanesque, passe à l'écriture dramatique, sous l'impulsion de ces metteurs en scène qui étaient en train d'éclore dans les années qui ont suivi la libération, Monet, Serrault, Planchon, etc. Et curieusement, 40 ans après, fatigué de cette inflation, de cette boursouflure de la mise en scène telle qu'elle a évolué notamment dans l'institution théâtrale française, Vinaver se retourne en quelque sorte contre ses origines et adopte une attitude de méfiance, hein, parfois d'hostilité à l'égard de certaines mises en scène, notamment les plus riches du point de vue de la production. Je crois que ça n'est un secret pour personne que l'une des occurrences au cours desquelles Michel Vinaver a été le plus malheureux en tant qu'auteur a été la création d'une pièce qui s'intitule L'émission de télévision. L'émission de télévision était une production du Théâtre National de Strasbourg en coproduction avec le Théâtre National de l'Odéon, les comédiens de la Comédie Française, un décor de Yanis Kokos qui était à la fois d'une ingéniosité mais d'une omniprésence et d'un envahissement extrêmement irritant parfois. Donc cette mise en scène de Jacques Lassalle a été probablement l'un des moments les plus douloureux et un des moments les plus polémiques dans l'histoire de Vinaver, de son rejet cette misanthrope. Alors, évidemment, comme Vinaver est aussi quelqu'un de politique, il sait très bien qu'on ne peut pas condamner une option sans en proposer une autre. Et là, s'affirme de plus en plus, à la fin des années 80 et dans tout le cours des années 90, une espèce d'utopie, une espèce d'attendrissement qui porte Vinaver à s'émerveiller davantage des réalisations produites par des ateliers de clubs théâtre dans les lycées, des réalisations de théâtre universitaire, de compagnies amateurs, de très jeunes compagnies totalement démunies, qui proposent en quelque sorte une sorte de théâtre pauvre, hein, par antithèse évidemment, par réaction. Et on voit aussi poindre dans certaines confidences et dans la pratique même à laquelle il se prête volontiers, une utopie aussi de la lecture à une voix par l'auteur de ses propres textes. Et dans les années 90, il faudrait en faire la liste un jour, Vinaver a réalisé une espèce de tour de France à la demande des différents théâtres qui le souhaitaient, de lecture de ses pièces. Portrait d'une femme a été lu de très nombreuses fois, y compris au moment où Vinaver résistait pour la création à la scène de ce texte. Même chose pour l'émission de télévision et pour d'autres textes qui avait déjà été créé, mais dont il acceptait de reprendre la lecture avec plaisir. Et là, on voit bien que la jubilation de l'oralité, pour lui, était la réponse à ce théâtre pour l'oreille, hein, qu'il avait revendiqué dans les écrits théoriques, et l'antithèse, bien évidemment, de l'emphase scénographique et de l'emphase interprétative psychologique auquel parfois son théâtre a été confronté et dont il pense très sincèrement qu'il a été pénalisé. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser tout de suite avant qu'on aborde l'autre séquence. Ça est très schématique, hein, c'est un petit parcours pour donner des points d'excitation à votre propre réflexion. Il est certain que dans le numéro 8 de Théâtre aujourd'hui, on en dit tous beaucoup plus sur cette question, et c'est une question qui nous avait animés au moment de l'élaboration du sommaire, ce qui fait qu'il y a non seulement l'essai de synthèse que je propose, mais il y a aussi tous les témoignages que nous avons recueillis d'Alain Françon, de Yannis Kokos, de Jacques Gabel, enfin c'est-à-dire de metteurs en scène et de scénographes qui ont beaucoup réfléchi au passage à la scène de l'œuvre de Vinaver, et qui eux aussi apportent leur écho d'anecdotes signifiantes à cette problématique théorique.
J'aurais une question. Oui. Vous disiez que ce théâtre apparemment sociologique, documentaire, résiste à toute forme de naturalisme.
Oui.
J'aimerais vous préciser, si c'est possible, qu'est-ce qui fait que justement elle peut résister.
Alors, il y a une... on pourrait se contenter de dire que le langage, le parler, la parole ordinaire, banale, quotidienne, y est poétiquement retravaillé. On pourrait le vérifier avec des jeux de sonorité, même à partir de l'analyse de l'onomastique. Les voisins, par exemple, Alice, Ulysse et Lisa. Voilà. Ces jeux de sonorité, ces jeux sur la matière phonique qui annoncent en quelque sorte Mignana. Mignana est extrêmement redevable à Vinaver de toute cette pratique sur la matérialité de la parole. Mais il y a aussi dans la construction et l'enchaînement des répliques, ou plutôt justement le non-enchaînement des répliques, quelque chose qui déstabilise la linéarité logique et psychologique du traditionnel théâtre naturaliste. Là où Creutz, justement, se pose la question de savoir ce que vraiment une femme pourrait répondre à son mari qui ouvre la porte du frigo et qui dit « il n'y a rien à manger ce soir », et donc qui essaierait à ce moment-là de reproduire, hein, de reconstruire le réel, comme dit Sarrazac à propos du naturalisme. Vinaver, lui, au contraire, essaiera de faire le grand écart entre ce principe d'action et de réaction. C'est-à-dire qu'entre l'action et la réaction, il introduira, si possible, deux ou trois autres répliques qui seront parfois à la limite du non-sens. C'est le cas dans la demande d'emploi. Dans la demande d'emploi, les répliques ne se... Même si la situation est très réaliste, aussi bien celle du psychodrame familial que celle de l'entretien d'embauche, d'abord le fait de les avoir mixées et le fait, à l'intérieur même de cette mixture, d'avoir tout battu en vrac, je ne dis pas de façon aléatoire, mais d'avoir tout reconstruit de façon que justement il n'y ait aucun soupçon de linéarité psychologique. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près. Alors c'est une indication pour les acteurs, ça. C'est une indication parce que la fragmentation les condamne d'une part à une certaine forme de virtuosité, et d'autre part à ne pas interpréter les rôles de façon psychologique. J'en donnerai un exemple dans ce que, dans ce que j'ai vu hier dans l'autre salle. L'interprétation par Didier Sauvegrain à la fois du père et de l'amant chirurgien, le premier amant chirurgien allemand. Très intéressant le fait que Wynaber ait écrit ça pour que ce soit distribué au même acteur, hein, nous indique tout de suite une certaine piste psychanalytique, une certaine piste de crise d'identité édipienne, et c'est fort intéressant, cette superposition des deux images à travers l'attribution des deux rôles au même acteur. Mais il y a un moment extrêmement virtuose où, en bout de table, les répliques du père et celles du chirurgien se répondent, enfin ne se répondent pas, mais s'enchaînent. Et ça oblige l'acteur à trouver des solutions ludiques pour traiter de façon non psychologique l'identité de chacun des personnages. Alors par exemple, le père, ce sera les lunettes et le cou légèrement penché. C'est-à-dire qu'on rejoint beaucoup plus de ce point de vue-là le gestus brechtien. C'est pour ça qu'il ne faut pas complètement rejeter l'hypothèse brechtienne, puisque quelque part, les lunettes et le cou un peu penché, rentré dans les épaules, ça dit des choses par rapport à une certaine petite bourgeoisie coincée, par rapport à une vie mesquine. Donc on est obligé de traiter cela par des signes qui s'apparentent beaucoup plus au gestus brechtien que à la motivation psychologique stanislavskienne. Un peu compliqué ce que je dis là, mais enfin en même temps, je pense que la plupart d'entre vous... Et cette virtuosité casse toute tentation d'installation de l'acteur dans le ronron plomplom de l'interprétation psychologique linéaire. C'était un peu